La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bonjour à toutes et à tous. Moderniser les services, améliorer la qualité de vie des agents, participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire, c'est le choix des collectivités, des administrations centrales ou déconcentrées qui mettent en place le télétravail. L'intention est clairement affichée, mais qu'en est-il de la mise en œuvre? Aujourd'hui, pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir Madame Clémence Weitscheider, conseillère en organisation du travail et conduite du changement RH, à la préfecture de région Occitanie. Bonjour Clémence.
Bonjour, je suis ravie de parler avec vous du télétravail. Dans mes missions, aujourd'hui, je suis effectivement chargée de déployer le télétravail au sein des services de l'État dans la région Occitanie. Et donc, cela veut dire pour moi, en fait, accompagner les préfectures, les sous-préfectures, des directions régionales ou départementales pour développer le télétravail dans leur structure, mais aussi d'accompagner concrètement à la fois des managers ou des équipes sur ces questions précises.
Clémence, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs ce qu'est le télétravail ?
Alors, le télétravail n'est pas une notion très très récente. En fait, dans les années 50, on en parlait aux États-Unis avec la notion de télework. Ça date des années 50 et notamment avec les grandes distances que couvrait le territoire des États-Unis. Et puis, dans les années 70-80, on a les technologies de l'information et de la communication qui se développent, donc on en parle un petit peu plus. Et en 92, le Canada met en place en fait un projet pilote de télétravail. Ils vont le tester concrètement. Et en France, ça arrive en 2005 avec l'accord national interprofessionnel qui pose les principes du télétravail. Alors, ça existait déjà de manière informelle avant 2005, mais c'est en 2005 qu'on le voit marqué dans des textes. En France, le télétravail, ça répond à une définition assez précise. En fait, ce sont les activités que l'on peut très bien exercer au bureau, mais que l'on va faire à l'extérieur. Et alors, généralement, pour nous, en France, ça veut dire à domicile, à peu près. Et ces activités-là, elles sont faites à peu près de manière régulière. Donc, il y a des jours qui sont donnés et volontaires. C'est une démarche volontaire de la personne qui souhaite télétravailler. Pour la fonction publique, qu'on soit du coup fonction publique d'État, fonction publique territoriale ou fonction publique hospitalière, qu'on soit fonctionnaire ou contractuel, il y a un décret qui est sorti en février 2016 qui définit le télétravail. Donc, c'est la définition qu'on vient de voir. Et puis qui rajoute des points particuliers. Alors attention, juste ce décret-là, il n'est pas applicable pour les militaires. Bon, ça paraît un petit peu coulé de sens, mais c'est bien de le préciser. Donc le décret, au-delà de ça, il dit aussi qu'on ne peut pas télétravailler plus de 3 jours par semaine si on est à temps complet. Donc il fixe un nombre limite de jours. Il dit également que c'est effectivement une démarche volontaire et que le candidat qui va demander du télétravail, il va poser sa demande et qui va être analysée ensuite par sa hiérarchie. Donc, ça vient vraiment d'une demande individuelle d'un agent. Que ensuite, si on lui accepte le télétravail ou s'il lui est refusé, ça va être formalisé dans un document. Aujourd'hui, c'est pas juste un accord oral, en fait, ou un refus oral. Le décret va aussi donner un point important, c'est que le télétravail, c'est réversible. Ça n'est ni un droit acquis, et que si ça ne convient pas, on peut revenir en arrière. C'est pas inscrit dans le marbre. Du coup, aussi, le décret précise que, une fois par an, on a un bilan au sein du service sur le télétravail. Ça paraît évident également, mais le décret dit bien que les agents qui sont en télétravail, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les agents qui exercent au bureau. Il n'y a pas de changement si on est en télétravail ou pas. Le décret, il fait quand même un point particulier, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'emploi télétravaillable ou non. En fait, on doit regarder au niveau des activités pour savoir s'il y a des activités qui sont télétravaillables ou non, partant du principe que un emploi, potentiellement, il y a des choses qu'on peut télétravailler, des missions, des activités, et il y en a d'autres qui ne sont pas télétravaillables. Donc ça, c'est le décret qui cadre, en fait, au niveau national, un petit peu comment on se fait, et ensuite, c'est décliné de manière différente. Donc, à la fonction publique d'État, on a des arrêtés, au niveau des centres hospitaliers, on a des décisions de l'autorité, et dans les collectivités territoriales, on a des délibérations. Et donc, ces documents, en fait, ils vont aller un peu plus préciser concrètement comment se met en place le télétravail en interne. Donc, des fois, il va y avoir des détails sur le matériel qui va être fourni aux télétravailleurs, sur la procédure en interne, parce que parfois, il y a des étapes différentes, des demandes qui sont dématérialisées, des passages en commission, etc. On va avoir un regard sur les temps de travail, s'il y a des formations qui sont proposées ou non. Et puis, il y a des activités qui, par principe, ne sont pas télétravaillables. Typiquement, dans les activités non télétravaillables, l'exemple de l'accueil au public. Ça, on peut pas, c'est une activité qu'on ne peut pas réaliser à domicile ou dans un tiers-lieu. Après, donc ça cadre quand même un peu plus et ça décrit le décret. Et le troisième niveau, en fait, de cadrage, c'est au niveau local, dans le service, dans la structure, qui va rédiger une charte. Alors, ça prend souvent le nom de charte, mais ça peut être un document de référence. Et là, qui va aller encore détailler un petit peu plus précisément et par rapport à son propre contexte, l'adapter aux horaires qui sont adaptés à la structure. Et donc, c'est vraiment la déclinaison locale des textes nationaux et qui s'applique finalement à l'agent qui veut faire le télétravail. Pour le secteur privé, parce que là, du coup, je parlais beaucoup du secteur public, juste un petit point. C'est inscrit dans le Code du travail depuis 2012, avec la même définition. Des activités que l'on peut exercer normalement au bureau, mais qu'on va faire à l'extérieur. Et ensuite, au sein des entreprises, c'est soit mis en place par un accord collectif, enfin, c'est intégré dans l'accord collectif ou dans une charte interne de l'entreprise. Et en 2017, les ordonnances Macron ont ouvert un petit peu le télétravail, ont nuancé des petits points réglementaires, notamment sur le caractère régulier. Et les ordonnances Macron, donc, qui s'appliquent qu'au secteur privé, ouvrent, mettent un peu plus de souplesse sur le recours au télétravail en caractère, en situation exceptionnelle. C'est le cas des intempéries, des grèves ou s'il y a une épidémie, en fait. Et puis, le deuxième point des ordonnances Macron qui est important, c'est que l'idée, la formalisation du télétravail, elle est nécessaire, mais c'est pas forcément un avenant au contrat de travail. Ça peut être un document un petit peu plus souple et moins formel. Donc ça, ce sont les deux points, en fait, qui ont été dans les ordonnances Macron de 2017 sur le télétravail et qui potentiellement risquent d'un moment donné, en fait, d'être appliqués aussi dans le cas du secteur public. Puisque aujourd'hui, le décret donc de février 2016, il est en cours de révision dans le cadre de la loi de la transformation publique et il y a une nouvelle version, mais on ne connaît pas évidemment tous les articles, devrait paraître début 2020, mais la philosophie serait de mettre un peu plus de souplesse par rapport au décret de 2016. Si on doit juste résumer et donner des contre-exemples sur ce que n'est pas le télétravail, ça n'est pas du temps partiel, c'est pas une alternative au temps partiel. C'est pas du nomadisme, parce que le nomadisme, ça veut dire faire des activités à l'extérieur de son lieu de travail, mais ce sont des activités qu'on ne peut pas faire au bureau, en fait. C'est typiquement le cas des inspections sur le terrain, ou si on fait des visites de contrôle au sein d'entreprises ou au sein de structures. Et puis, ça n'est pas non plus de la garde d'enfants, malgré ce qu'on peut entendre de temps en temps. Et pour finir, dans les échanges là, de nos échanges en ce matin là. Je ne parlerai pas du télétravail pour des raisons de santé ou de handicap. On va considérer que là, il s'agit une solution individuelle d'adaptation à l'emploi qui va permettre à un agent qui a des problèmes de santé ou un handicap de pouvoir continuer à travailler dans des bonnes conditions. Et donc, du coup, ça répond pas aux mêmes exigences que le télétravail pour l'ensemble des autres agents. Par exemple, quelqu'un qui a un handicap ou un problème de santé peut télétravailler jusqu'à 5 jours semaine sur recommandation du médecin. Donc, on va partir du cas où on s'adresse et on va parler de cas de télétravail pour des personnes qui n'ont pas de problème de santé ou de situation de handicap.
Merci Clémence pour ces éléments d'information. Je vous propose maintenant d'aller un peu plus en avant sur le sujet. Maintenant que l'on sait ce qu'est le télétravail, auriez-vous en tête quelques éléments chiffrés nous permettant d'apprécier où on en est dans la mise en œuvre de cette nouvelle modalité de travail?
Alors oui, des éléments chiffrés. En fait, c'est important de noter qu'il est très compliqué d'avoir des chiffres exacts et précis à présenter, notamment au niveau entre pays européens ou international. Les définitions du télétravail, elles sont pas alignées. Moi, la définition que je vous ai donnée tout à l'heure sur le télétravail, c'est en France et on retrouve pas exactement la même partout. Donc parfois, on parle de télétravail mobile ou de télétravail à distance occasionnelle. On a quand même quelques chiffres pour se repérer, mais il faut prendre ces chiffres-là avec prudence et savoir qu'il y a un biais potentiel sur ces chiffres. Alors, juste pour la petite anecdote, les champions du monde du travail mobile seraient les Brésiliens et les Indiens, donc qui seraient effectivement les deux populations qui présentent le plus de personnes qui ne travaillent pas sur les lieux du bureau, en fait, et qui sont soit en télétravail, soit en travail à distance. Donc ça c'est au niveau mondial. Si on fait un petit focus sur les États-Unis, puisqu'ils depuis les années 50 ils téléwork, il y a une étude annuelle par un office national qui dit qu'en 2017 il y aurait à peu près 20% de télétravailleurs. Et ça fait à peu près 4-5 ans qu'on tourne autour du même chiffre. Et par contre, il y aurait un peu plus de 40% de salariés qui seraient éligibles au télétravail. Donc, ça voudrait dire que sur la moitié des salariés éligibles au télétravail aux États-Unis, il y en a finalement encore que la moitié qui télétravaillent. Ces télétravailleurs-là télétravaillent à peu près 3 jours par semaine ou plus. Donc, c'est un quota fort, en fait, finalement, 2 jours de télétravail. Si on traverse l'océan Atlantique, donc revenons un peu en Europe, c'est ce que l'on sait, ce que l'on observe depuis une dizaine d'années, c'est que même si on n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres, il y a quand même une augmentation globale du nombre de télétravailleurs. En Europe, alors, ce sont des chiffres qui datent un peu, mais en 2009, on serait à un peu moins de 2 télétravailleurs sur 10, avec évidemment les pays nordiques, Pays-Bas, Danemark, Belgique ou Finlande, qui sont à peu près entre un quart ou un tiers de salariés télétravailleurs. Et donc, sur ces télétravailleurs-là, on a une part importante de télétravailleurs occasionnels. C'est-à-dire que ce caractère régulier qui est important aujourd'hui, notamment dans la fonction publique en France, n'existe pas, ou peu, en tout cas, dans les pays nord-européens. Et maintenant, en France, alors, c'est pareil, on a, selon les enquêtes, les chiffres qui oscillent beaucoup. En 2016, on a annoncé 16,7% de télétravailleurs en France. Et alors, en 2019, sur les derniers chiffres, dans le secteur privé, sur les personnes qui travaillent dans un bureau, on serait à un tiers, en fait, des actifs qui télétravaillent. Donc, sur cette étude-là de 2009, qui est la plus récente, on ne compte pas les agents publics et on ne compte pas non plus les salariés qui sont sur ligne de production, par exemple. On s'est intéressé vraiment, le panel, il est uniquement sur des salariés qui sont en bureau. Donc, on voit que ça aurait augmenté, en fait, effectivement, les chiffres. Donc, on serait à peu près en France entre 20 et 30% de télétravailleurs. Ces télétravailleurs-là, ils travaillent essentiellement à domicile. Et là, par contre, toutes les études s'accordent. On est à peu près à 9 sur 10 télétravailleurs, c'est à domicile. En France, on télétravaille très peu dans des tiers-lieux. Et en moyenne, c'est à peu près 7 jours par mois. Donc, c'est une moyenne nationale, ça fait à peu près un jour et demi, à 2 jours par semaine, en fait, de télétravail. Par contre, on a des études un peu plus qualitatives, puisque là, on était sur des chiffres, qui nous montrent que finalement, il y a plus de la moitié des Français qui aimeraient bien télétravailler. Et notamment, essentiellement, pour mieux équilibrer l'aspect vie personnelle et vie professionnelle. Donc ça, c'est au Global France. Et si on regarde pour le secteur public, on n'a pas d'enquête globale, en fait. Il y a eu une tentative d'enquête, mais on n'a pas eu des chiffres nationaux. Ce qu'on sait, c'est qu'en 2013, on a à peu près moins de 1% de télétravailleurs, qu'on soit à l'État ou à la territoriale. Et en fait, donc on a vraiment très très peu de télétravailleurs. Et dans ces chiffres-là, de moins de 1%, en creusant un peu les études, on voit que c'est surtout des personnes qui étaient en situation en fait de handicap ou qui présentaient une maladie en fait, qui avaient des problèmes de santé. Donc, on a encore peu de télétravailleurs, on a une grande marge dans la fonction publique. Et au niveau des ministères, à Paris, en administration centrale, on a en 2017 moins de 3,5% des agents qui télétravaillent. Juste pour un focus Occitanie, donc la région que j'accompagne sur les services de l'État, on a une enquête annuelle où on est à peu près à un peu plus de 7% d'agents de l'État qui télétravaillent. Finalement, on est quand même malgré tout assez loin des 20 à 30% qu'on voit dans la presse de télétravailleurs en France. Si on fait un petit focus sur la fonction publique territoriale, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un peu moins de la moitié des collectivités qui déclarent avoir mis en place le télétravail chez eux. Par contre, dans les petites collectivités, et ça paraît effectivement assez logique, elles ne souhaitent pas forcément avoir un accord télétravail. Et ça se fait de manière peut-être un peu plus souple que dans des grandes collectivités où il y a tout un processus de déploiement qui est mis en place. Si on donne deux, trois exemples, puisqu'on n'a pas d'études nationales de l'ensemble de la fonction publique territoriale, on sait que finalement, le chiffre de télétravailleurs va être dépendant de la politique qui va être plus ou moins volontariste. Le Conseil régional d'Île-de-France, on a eu beaucoup communiqué dessus l'année dernière. Aujourd'hui, ils sont à 60% des agents qui télétravaillent. Et sur ces 60%, il y en a deux tiers qui télétravaillent 2 jours par semaine. Donc là, on a une vraie politique très volontariste avec une majeure partie des agents qui télétravaillent, en fait. Mais sur d'autres petites collectivités, on va avoir des chiffres beaucoup moindres avec 5 à 10% d'agents qui télétravaillent. Et pour juste un petit regard sur la fonction publique hospitalière, dans les hôpitaux où on pense pas forcément télétravail assez facilement, on sait qu'on a des établissements de santé qui ont mis en place le télétravail. À Bordeaux, au CHU de Bordeaux, il y a 107 télétravailleurs. Il y a des secrétaires médicales, pardon, des personnels administratifs. Et donc il y a différentes expérimentations qui existent aussi dans les établissements hospitaliers. Finalement, on n'a pas de chiffre annuel de recensement du télétravail. Il y a plusieurs études qui existent, mais elles ont toutes des panels légèrement différents, donc c'est complexe de les comparer. Mais là où tout le monde s'accorde, c'est qu'on a une augmentation globale du nombre de télétravailleurs, surtout à domicile, à peu près 1 à 2 jours par semaine, et ce qui est encore finalement assez loin de la moyenne des autres pays européens.
Clémence, comme vous venez de nous le rappeler, le télétravail induit de nouvelles formes de relations au lieu et au temps dans le monde du travail de l'agent auquel on a accordé cette nouvelle modalité de travail. Mais qu'en est-il du point de vue du manager? Quels avantages et quels points de vigilance faut-il avoir?
Alors, l'important, en fait, il me semble, à faire passer comme message, c'est que le télétravail, il ne va pas, a priori, créer des difficultés managériales supplémentaires s'il n'en existe pas au sein de l'équipe initiale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points de vigilance. Mais globalement, si aujourd'hui, dans une équipe, tout se passe bien en termes de management et d'organisation, le télétravail, il va se mettre facilement en place. Il ne va pas créer des situations complexes à gérer. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'arrivée du télétravail dans une équipe où il y a des difficultés existantes, finalement, il va mettre ces difficultés managériales en exergue, il va les complexifier, et donc du coup, on va avoir l'impression que c'est le télétravail qui a créé des difficultés managériales. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, par exemple, quand j'accompagne des services, on me remonte souvent des managers qui me disent « Mais finalement, comment je peux refuser ce télétravail à cet agent ?» Donc, ma première réaction, c'est souvent de questionner en fait le manager en essayant de savoir pourquoi le manager voudrait refuser le télétravail. Et la réponse que j'ai régulièrement, c'est « Mais en fait, il travaille pas déjà quand il est au bureau et donc il ennuie ses collègues et je vais pas en plus le récompenser, entre guillemets, en lui donnant du télétravail. » L'objectif là, c'est de se dire ben, « Finalement, qu'est-ce que toi, en tant que manager, tu fais déjà aujourd'hui pour régler ce problème ?» Il y a un agent qui aujourd'hui peut-être pose souci, ou en tout cas, on a l'impression qu'il ne travaille pas, et ben qu'est-ce qu'on fait pour régler cette situation? Et effectivement, si on fait rien, le télétravail, ben, ça va pas régler la situation, donc ça va le mettre encore plus en avant. Et ce que je voudrais faire vraiment passer comme message, c'est que on va déporter des problèmes existants de management sur le télétravail, dont on lui attribue des causes, en fait, de difficultés managériales, mais en fait, le télétravail, il va juste reposer des bonnes pratiques managériales. Le premier point, c'est que le télétravail, il va pas pouvoir se mettre en place s'il n'y a pas de confiance entre l'agent et son manager. Alors, ça veut dire quoi être en confiance? Pour moi, ça veut dire notamment que entre les deux acteurs, donc le télétravailleur et son manager, les informations, elles vont circuler. On va se contacter facilement, même les jours de télétravail. On va se rendre compte, en tant qu'agent télétravailleur, dire ce que on fait les jours de télétravail, les difficultés qu'on rencontre. Si on a un souci, on prend le téléphone, on appelle. Et puis, on va se programmer ensemble, en bilatéral, des moments d'échange. Donc, ça veut dire aussi que le manager, il est dans une posture particulière. Il ne va plus pouvoir, si jamais il l'était, en tout cas, il ne pourra pas être dans une position de contrôle. Il va devoir accepter que son agent, il sait s'organiser, qu'il va s'organiser, et puis que du coup, le manager, il va devoir manager plutôt par objectif, et plus, non pas par contrôler chaque tâche, chaque activité. Donc, on part a priori en ayant confiance en son agent. Et si on soupçonne finalement de profiter du jour du télétravail, puisqu'on va dire qu'il a un jour de télétravail, et on soupçonne cet agent de faire autre chose, eh ben l'idée c'est de tester en fait finalement le télétravail et de voir si l'agent ou le salarié il travaille bien ces jours-là. C'est-à-dire que du coup on peut mettre des objectifs et vérifier à l'issue du télétravail est-ce que les objectifs ont été atteints. Et si c'est pas le cas, essayer de creuser pourquoi. Et si finalement le télétravailleur n'arrive pas à travailler le jour de télétravail, ben prendre les décisions qu'il faut prendre. Après, si on a un manager qui part du principe que tous ses collaborateurs veulent télétravailler pour rien faire, pour se reposer, garder les enfants ou autre, finalement, on peut se poser des questions sur la confiance qu'il y a au sein de l'équipe et que il n'y a pas de collaborateurs engagés au sein de l'équipe et donc du coup, il y a un vrai problème au niveau de l'équipe. Et cette posture-là managériale, on la rencontre de temps en temps en fait, mais elle est plutôt rare. Des managers qui pensent a priori que tous les télétravailleurs sont des filous et qui vont en profiter pour rien faire. Donc ça, c'est la relation de confiance. Il y a un autre point de vigilance aussi que je voudrais faire passer. Au-delà de ça, c'est l'importance, la nécessité de parler en équipe de la mise en place du télétravail. Trop souvent, on va considérer que c'est une affaire bilatérale entre quelqu'un qui veut télétravailler et un manager. Finalement, le télétravail, il va impacter toute l'équipe. Que ce soit en termes d'organisation, soit parce que aussi bien des collègues ont un avis particulier sur le télétravail. Certains collègues vont avoir des craintes par rapport au télétravail, vont avoir des peurs ou ils ont des questions. Et donc c'est important de, en amont des demandes, de le travailler en équipe et tout au long de la mise en place du télétravail. Et donc pour le manager, ça veut dire qu'il doit faire attention, il doit être particulièrement vigilant aux échanges collectifs relatifs à cette question-là du télétravail. Ça permet finalement aussi de trouver les meilleures solutions d'organisation interne au sein d'une équipe, et puis de ne pas laisser place au sentiment de jalousie ou d'iniquité qui pourrait remonter de la part de collègues qui ne télétravaillent pas, qui n'ont pas forcément demandé du télétravail, mais qui ne comprennent pas pourquoi tel agent pourrait télétravailler ou pas. Donc ça permet finalement d'échanger et puis de lever des peurs et des craintes et en tout cas de débattre des questions collectivement. Sur les managers, donc ça c'était les points de vigilance, mais quand on les questionne aussi sur bah, finalement qu'est-ce que vous observez vous de vos agents lorsqu'ils télétravaillent, on a quand même un grand nombre de remontées de points positifs. Alors en termes de verbatim, on a le collègue, bah, et finalement il est plus autonome, bah, mon agent est responsabilisé. Je vois qu'il a une qualité de vie plus agréable et donc il est mieux au travail. Et puis du coup, il va produire plus. Ah, les jours en télétravail, il avance vraiment bien sur les dossiers de fond, il travaille mieux. Donc ça, c'est des points positifs qui remontent. D'ailleurs, il y avait une petite étude qui parlait beaucoup de plus de 20% de gains de productivité les jours de télétravail, puisque par voie de fait, moins d'interruptions en fait, et donc plus de productivité. Et puis les télétravailleurs, quand ils ont obtenu le télétravail, généralement, ils sont contents. Et donc, eh bien, peut-être en retour de cette obtention du télétravail, on constate aussi qu'ils sont souvent plus motivés, plus engagés, et les managers, ils ressentent en fait cette motivation. Et par exemple, dans des équipes aussi où on a des équipes qui sont sous pression, le télétravail, ça va permettre à certains agents finalement de prendre un peu de recul, de souffler un peu pendant une journée où ils se concentrent sur d'autres activités. Et du coup, ça enlève aussi un peu de la pression sur la gestion de l'équipe. Donc, au niveau du manager, il le voit directement. Et très concrètement aussi, un autre point, c'est que les managers, ils voient une baisse d'absentéisme. Donc, une des raisons potentielles, c'est que le télétravail engendre moins de fatigue, moins de déplacements, moins de fatigue, donc moins de risque de tomber malade aussi et donc de s'arrêter. Donc ça, les managers, ils le remontent concrètement, en fait. J'observe moins d'absentéisme dans les équipes où il y en avait. Un autre point, c'est que les managers, ils nous disent aussi que finalement, mettre en place le télétravail, ça les a amenés, voire ça les a un petit peu forcés à se questionner sur l'organisation même de l'équipe. Par exemple, des managers qui disaient, j'ai deux, trois demandes là, sur mon équipe de 10 de télétravail et j'ai envie de pouvoir l'autoriser au maximum. Et bien finalement, ces managers-là, ils s'étaient peut-être rendu compte que ça faisait un moment, voire ils ne l'avaient jamais forcément fait, de prendre le temps, un temps collectif, pour repenser l'organisation et se dire finalement, est-ce que c'est le plus pertinent, la façon dont on est organisé? Et puis, dans certaines équipes, du coup, ben, ils ont été jusqu'à modifier un petit peu, presque même les fiches de poste. Mais pour pouvoir mettre en place le télétravail, ils ont mis en place des roulements sur l'accueil pour permettre, en fait, à certaines personnes de pouvoir télétravailler plus facilement. Et ce roulement-là, c'est finalement permis de se rendre compte que c'était pas ultra pertinent sur qui on faisait porter uniquement cette mission d'accueil, puisqu'on l'a centralisée sur une personne, et ça la mettait en difficulté. Donc, ça permet au manager, finalement, d'avoir ce levier-là, de reposer l'organisation de son équipe. Et puis, quand il y a plusieurs télétravailleurs dans une équipe, le manager, il nous fait remonter également que quand il y a des temps collectifs, donc il faut qu'ils soient sanctuarisés, mais quand ils sont là, ils sont de meilleure qualité. Parce que quand on est là pour les temps collectifs, et du coup, les temps de réunion, de travail collectif, les agents sont pleinement disponibles pour ces réflexions. Donc c'est plus performant. Un autre point, donc là on parle des managers et du télétravail, et dont on soupçonne pas forcément, c'est que, en fait, le télétravail, ça permet aussi aux structures et donc du coup aux managers d'être plus attractifs. Aujourd'hui, on a un ensemble de personnes sur le marché du travail pour qui la possibilité de télétravail est un vrai atout et peut peser dans la balance dans le choix de candidater ou non, ou voire de choisir le poste ou pas. Et donc, dans certaines, notamment dans certaines zones où on a des problèmes de recrutement parce qu'elles sont isolées, notamment de métropoles, dans les territoires ruraux, ça peut permettre en fait finalement de trouver des personnes sur des postes vacants. Alors après, c'est pas tout rose, hein, le télétravail pour le manager, et donc il y a quelques points de vigilance. Alors tout à l'heure, on parlait de la confiance, par exemple sur les temps collectifs, donc oui, ils sont de meilleure qualité, mais par contre, il faut réussir à les organiser, notamment dans les équipes où on a plusieurs télétravailleurs, pas forcément les mêmes jours. Si on cumule des temps partiels, et ben là du coup, ça peut être complexe de sanctuariser un moment. Donc là, le manager, il a un vrai rôle de définir, d'anticiper les réunions collectives pour qu'il n'y ait pas de télétravail potentiellement ces jours-là et que ces moments-là soient conservés. Il y a des managers...
Vous avez dit, oui. On parle toujours du manager capable oui. de faire ça, mais ça part d'un a priori, c'est qu'il a été formé pour gérer le télétravail. Ce n'est pas si simple que ça, d'après moi. Hein. J'ai eu un vécu oui. déjà avec du télétravail, une équipe, quelqu'un de mon équipe qui faisait du télétravail. Effectivement, tous les points de vigilance que vous avez dit, il est loin, la personne est éloignée, il faut veiller à ce qu'elle continue à faire partie de l'équipe, etc. Il y a aussi une dimension quand même psychologique. Les gens qui se voient tous les jours créent un lien d'amitié. Et donc, il y a un affectif qui ne dimensionne pas avec la personne qui est à distance.
Oui.
Le manager alors là, doit subir et doit constater soit ses méfaits qui payent instinctivement les uns envers les autres, et de l'autre côté, l'autre qui se sent exclu hors manager, hors dans l'équipe en tant que tel. Il y a des formations spéciales pour les managers?
Alors, il y a des formations qui existent pour les managers, justement, sur faire ces points de vigilance-là. Mais parce qu'effectivement, le manager effectivement doit être vigilant à ce que son télétravailleur ne s'isole pas, donc ce point-là, et que le lien entre l'équipe et le télétravailleur ne soit pas coupé. C'est-à-dire, l'isolement du télétravailleur, c'est par rapport au manager et par rapport à l'équipe, mais aussi, le manager doit être vigilant au reste de l'équipe, alors qu'il n'y ait pas soit du recharge, soit un sentiment d'inéquité de traitement, soit que l'équipe isole lui-même le télétravailleur. Et donc, il y a des formations qui existent, donc il y en a au CNFPT de mémoire, il y a des structures qui font des formations aussi directement, pas de manière généralisée, et sur lesquelles c'est l'idée un peu d'échanger et de débattre sur ces points de vigilance-là. Après, ces points-là, ils existent de manière plus diffuse, mais ils existent aussi quand on a du management à distance sur des équipes qui travaillent en bisite, notamment avec, par exemple, la fusion des régions, que ce soit les services de l'État au niveau régional ou le conseil régional, par exemple. On a des managers qui ont des équipes à bisite, donc ça dépasse le télétravail, mais il y a cette question-là. Et ce sont des enjeux aussi qu'on peut observer sur... tout simplement des managers qui ont des équipes, mais dans des bureaux un petit peu éloignés physiquement, géographiquement, au sein d'une même structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de télétravail.
Ça voudrait dire que on peut prendre deux managers de même expérience en termes de durée, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont managers, mais tous ne sont pas forcément performants pour manager des équipes avec des travailleurs.
Exactement. Là, on revient à des questions de qualité, de posture managériale. Donc, effectivement, dans les critères de qualité managériale, pour que les critères de succès, hein, les leviers de succès, on est sur de la confiance, la relation de confiance, la capacité à organiser le travail et à suivre le travail, et l'écoute, c'est-à-dire savoir capter les signaux faibles qui viennent du télétravailleur ou de l'équipe pour pouvoir agir. Et donc, du coup, adapter son style de management en fonction des situations. Et ça nécessite, en fait, effectivement, des compétences intrinsèques qui sont relatives à des qualités humaines aussi propres. Et donc, potentiellement, on peut aussi faire des formations, mais qui vont, si on ne fait pas évoluer sa posture managériale, eh bien, du coup, on a des risques d'échec dans la mise en place du télétravail. Tout à fait.
Donc là, on a vu les aspects, les contraintes ou les nouveaux champs d'exploration pour le manager. Maintenant, qu'en est-il pour l'agent en télétravail? Quels avantages et quels points de vigilance faut-il qu'il ait lui-même?
Oui. Alors, pour l'agent de télétravail, le premier point qui remonte, et alors là, c'est assez unanime, c'est ça permet d'améliorer mon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Alors, du coup, en fait, ça se traduit comment concrètement? Ben, c'est du temps mieux géré. Donc, déplacement, donc moins de fatigue, aussi ce sentiment d'avancer plus et mieux les jours de télétravail. Et du coup, ça impacte le moral. Certains télétravailleurs vont témoigner d'avoir pu reprendre du sport, de pouvoir aussi aller chercher les enfants en fin de journée, ce qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils avaient 1h30 de transport après pour rentrer. J'ai des télétravailleurs qui m'ont précisé que du coup, ils avaient repris par exemple un mandat d'élu dans une association, dans une collectivité ou un mandat dans une association. Donc tout ça finalement, ça leur permet de redevenir un petit peu plus maître de l'organisation de leur journée et donc forcément d'avoir un meilleur équilibre de vie. Physiquement aussi, les personnes en situation de télétravail, elles font remonter qu'elles sont moins fatiguées, moins stressées. Donc ça, c'est effectivement parce que les temps de transport sont réduits. Et puis aussi parce que parfois, on s'éloigne un peu des stress qui existe quand on est sur place au travail. Quand on est dans des équipes qui sont soumises à des stress, le fait de télétravailler, ça permet de prendre du recul et du souffle. Et puis, donc ça, c'est l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Un autre point qui est aussi, et qui n'est pas négligeable, c'est que réduire les temps de trajet, ça veut dire aussi prendre potentiellement moins sa voiture. Et donc, pour les personnes qui se déplacent en voiture, avoir un gain financier qui est non négligeable. Il y avait une étude nationale qui avait estimé à peu près à 124 € de gains financiers par mois pour des télétravailleurs qui télétravaillaient 2 jours par semaine. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça peut permettre d'augmenter un peu le pouvoir d'achat. Et donc, finalement, ces points-là, en fait, ces différents points font que les télétravailleurs disent que finalement, c'est comme un cercle vertueux finalement. Ça améliore globalement ma qualité de vie, de travail, et donc je travaille mieux. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Ils arrivent mieux aussi concrètement dans leur travail à s'organiser, puisque une journée en télétravail, potentiellement, ça s'anticipe un peu, parce que potentiellement, il faut pouvoir prendre quelques dossiers, ou en tout cas, il faut gérer les agendas différemment. Donc, ça peut permettre aussi de progresser en autonomie. Et puis, le télétravailleur, il va dire que, ben, en fait, je suis considéré par ma hiérarchie. On m'a autorisé le télétravail, on me fait confiance. Et donc, du coup, c'est une vraie marque de confiance. Et donc, du coup, de motivation et d'engagement. Et d'ailleurs, finalement, les meilleurs ambassadeurs du télétravail, ce sont les télétravailleurs eux-mêmes qui veulent pas revenir en arrière et donc qui ont souvent à cœur de montrer que le télétravail, ça a beaucoup de points positifs et qu'on est efficace et productif. Il y a des agents du conseil régional que je rencontrais qui me disaient qu'ils télétravaillent 2 jours par semaine, mais que du coup, quand ils sont au bureau, ils sont plus disponibles finalement intellectuellement pour leurs collègues et pour les travaux collaboratifs. Et donc du coup, au-delà de leur répartition de leur propre agenda, ils ont aussi l'impression d'avoir une gestion des temps de travail entre de l'individuel et du collectif qui est beaucoup, beaucoup plus efficace qu'auparavant. Quand je redisais sur les ambassadeurs du télétravail, si on regarde les études locales, donc quand on va dans les structures en disant bah, finalement vous avez tant de télétravailleurs, combien ont interrompu le télétravail, on est à moins de 0,5%. Donc en fait, au-delà de quelques situations un peu peut-être compliquées ou de personnes finalement pour qui le télétravail c'était pas une solution, on s'aperçoit que en fait, on a du mal à s'en passer quand on y a goûté. Donc ça, c'est vraiment pour les points positifs. Mais il y a quand même des petits points de vigilance aussi pour le télétravailleur. Les premiers qu'on me remonte et le plus courant, c'est les difficultés techniques. J'arrive pas à me connecter, j'ai pas accès à mon réseau, j'ai pas accès à mes dossiers ou aux mails. Et donc du coup, ben, on n'est pas forcément efficace le jour où on devait télétravailler. Donc ça gêne les agents. Et puis, dans certaines structures, les télétravailleurs, ils sont pas tous équipés au même niveau, hein, entre structures. Donc, on a des services et des équipes où le télétravailleur a une webcam, peut faire de la visio, etc. Et dans d'autres cas, c'est pas la même chose. Donc, du coup, ça peut limiter un peu la productivité. Et puis, effectivement, on a un autre point. On en parlait tout à l'heure. C'est le risque d'isolement. Et alors là, on a les organisations syndicales qui sont très vigilantes, justement, sur ce risque-là. Parce que si le télétravailleur ne vient plus beaucoup sur le lieu de travail, il peut être un peu oublié par le reste de l'équipe. Et donc, tout simplement parce qu'il n'est pas là au pause café, parce qu'il n'est pas là 2 jours par semaine. Puis si en plus, les autres jours de semaine, il a quelques réunions ou autres, l'équipe, entre guillemets, l'oublie un peu. Dans les études qui montreraient qu'il y a un effet d'isolement, la bascule, ça se passe à partir de 2 jours et demi d'absence sur le lieu de travail. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même. Et pour tester le télétravail, peut-être pas commencer tout de suite par 2 jours, mais peut-être voir 1 jour et voir quels impacts ça a sur son humeur, si on est isolé ou pas par rapport à l'équipe. Et puis alors, à l'effet inverse, on a des télétravailleurs qui arrivent plus du tout à couper aussi et qui amènent le télétravail et que ça déborde complètement dans les moments personnels. Et donc là, il faut être vraiment vigilant. Alors les petits conseils, c'est d'avoir un espace dédié qu'on peut fermer à la fin de la journée de travail et pas y retourner après dîner. Bon, ce risque-là, en fait, il existe aussi sans le télétravail. Hein. On connaît tous, on a tous des collègues qui rentrent à la maison avec l'ordinateur portable et puis qui consultent quand même les mails. C'est pas du télétravail, mais on continue à travailler le soir. Donc, cette complexité à couper. Et donc, ça, c'est l'idée, c'est de mettre en place ce droit à la déconnexion. C'est-à-dire, la journée de travail, elle a un horaire de début, un horaire de fin. Et ensuite, il faut pouvoir arrêter, stopper pour se consacrer à sa vie personnelle. Parce que ça a un impact, sinon, évidemment, sur la santé des télétravailleurs, puisque ça va augmenter du stress, de la fatigue. Enfin, voilà, si on n'arrive pas à couper. Donc, finalement, c'est d'apprendre le télétravail, ça va permettre d'apprendre à gérer ses temps de travail. Et puis, du coup, par rapport aux gens qui n'arrivent pas à couper, on a quand même des personnes aussi qui le disent de manière très honnête, qui ont tendance à procrastiner en cas de télétravail. Et donc finalement, Ce sont peut-être les moins de 1% qui interrompent le télétravail, mais qui se disent que finalement, c'est pas pour eux le télétravail. Et ça aussi, il faut savoir l'entendre. C'est-à-dire que le télétravail, c'est pas tout le monde. Et on a des agents qui ne sont pas prêts à télétravailler parce que c'est important pour eux de venir dans le bureau, dans l'équipe, et qu'ils se connaissent et qu'ils savent que s'ils sont à la maison, ils vont pas travailler de la manière aussi efficace qu'au bureau.
Justement, Clémence, comment, oui. Comment on s'y prend si on veut faire du télétravail? Comment on sollicite son organisation?
Alors, la démarche de télétravail, elle va être vraiment très spécifique à chaque entité. Que on soit dans une collectivité, dans un service de l'État, dans une entreprise, il n'y a pas une démarche unique qui est faite pour tout le monde. Mais en fait, il y a des étapes qu'on retrouve à peu près partout, alors qu'ils sont plus ou moins respectées, plus ou moins courtes. Du coup, avant de pouvoir demander du télétravail, il faut que le télétravail soit cadré dans la structure dans laquelle on a. Si c'est pas cadré, ça va être compliqué de pouvoir avoir des éléments de réponse. Donc du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la charte interne ou un autre document qui va dire comment on fait. L'objectif, c'est que dans ce document, la personne qui est intéressée pour le télétravail, elle va retrouver les modalités de candidature. Est-ce qu'il y a des dates limites? Est-ce que je peux déposer mon dossier tout le temps, au fil de l'eau dans l'année? Est-ce que je dois faire un formulaire pour déposer ou est-ce que c'est une demande libre? Ça va pouvoir faire aussi me préciser quel matériel va être fourni et puis savoir s'il y a des formations ou pas qui sont obligatoires en amont. Il y a un grand nombre de structures qui ont mis, on parlait des formations tout à l'heure, qui ont mis des formations obligatoires avant de demander du télétravail. Vous devez absolument passer par telle ou telle formation. Bon, une fois qu'on a ce cadre-là, on a un agent qui est intéressé par le télétravail. La première chose qui n'est pas toujours faite, mais que moi je trouve très intéressante, c'est d'essayer de s'auto-évaluer en toute honnêteté et sincérité. Alors pourquoi? C'est déjà d'essayer de voir si on a des activités télétravaillables. Potentiellement, on a peut-être un poste sur lequel on a beaucoup, beaucoup d'activités qui ne sont pas télétravaillables. Donc on a quand même beaucoup de chances d'avoir un refus du télétravail. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le demander? Ensuite, l'idée c'est d'évaluer mes motivations. C'est de chercher à vraiment comprendre pourquoi je demande le télétravail. C'est quoi qui me motive? Est-ce que c'est réduire mes déplacements? Est-ce que c'est avoir du calme pour pouvoir être sur des dossiers de fond? Enfin, peu importe. En tout cas, être au clair sur sa demande. Donc ça, c'est la première étape. Et puis aussi, entre parenthèses, d'essayer de voir si, mon avis, je pense que je suis suffisamment autonome pour pouvoir télétravailler. Donc une fois que je fais ça, l'idée, c'est de formaliser sa demande. Alors ça va du mail, selon les structures, à un formulaire qui est en ligne avec pas mal de champs à remplir. Donc ça dépend un petit peu de la structure. En tout cas, le candidat, il va dire « Je voudrais télétravailler pour telle raison, sur telle activité, et voilà le rythme que je propose. » Ensuite, ce qui est recommandé, normalement qui est fait, a priori, c'est un entretien entre le candidat et son N+1. Donc l'idée, c'est d'échanger à deux sur la demande et de voir la faisabilité. Alors par exemple, c'est là des fois qu'on ajuste. Tu me demandes le mardi comme télétravail, mais attention, le mardi, c'est les réunions d'équipe. Est-ce que peut-être que le jeudi, c'est possible pour toi? Donc, ça permet finalement d'affiner la demande de télétravail. Et donc ça, ce moment-là, c'est aussi un vrai moment de vérité managériale parce que ça peut aussi permettre de discuter sur les compétences et l'auto-appréciation de l'agent sur ses capacités d'autonomie ou d'organisation. Donc, c'est un levier très intéressant. Et puis, il y a des auto-évaluations aussi qui existent pour les managers qui permettent aussi de mettre en avant des petits points de vigilance pour eux. Et puis alors, comme je parlais de l'équipe, évidemment, ma troisième étape qui pour moi est importante en même temps finalement que l'entretien bilatéral, c'est un moment d'échange en équipe. Partageons ensemble qui veut télétravailler, pourquoi et comment on pourrait s'organiser. Voilà, c'est vraiment fondamental et ce temps-là en équipe, il est très 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 rarement pris. Ensuite, la quatrième étape, une fois qu'on a un peu formalisé la demande qu'on a échangée, c'est un circuit de validation interne. Donc selon les cas, on va s'arrêter au hiérarchique direct, le N+1, mais généralement, ça va remonter au niveau des responsables RH et ou secrétaire général ou des GS. Et puis même, dans certains cas, il y a des commissions en fait de validation des demandes. L'idée, c'est de veiller à une espèce d'harmonisation des refus en fait et une équité sur les autorisations. Une fois qu'il y a eu cette décision, la cinquième étape, c'est la formalisation de la décision. Donc, soit c'est une autorisation, très bien, monsieur machin, vous pouvez te laisser travailler, ce sera le temps dans tel endroit et pour ça. Et si c'est un refus, là, par contre, ce qui est exigé dans le décret, c'est que ce soit un refus motivé. C'est-à-dire qu'on peut pas juste dire à l'agent, c'est non. Il faut lui expliquer pourquoi. Est-ce que c'est pour raison de service, pour problématique d'activité, parce que l'agent n'est pas assez là depuis longtemps dans la structure, enfin, selon les critères, mais en tout cas, ça doit être vraiment notifié et expliqué. Et puis parfois, on a du refus partiel, c'est-à-dire on vous dit pas non à la demande de télétravail, mais on vous dit non pour 3 jours et on vous propose une journée. Donc parfois, voilà. Après, si le candidat il n'est pas d'accord avec la décision, la dernière étape, c'est qu'il peut faire appel, en fait, finalement. Il a des procédures adaptées en interne, en saisissant des commissions compétentes, et puis éventuellement, s'il n'y a pas de satisfaction en interne, eh bien, voire engager une procédure de recours administratif. Et une dernière étape, qui est un peu plus loin, mais c'est l'étape de bilan. C'est-à-dire que ensemble, OK, on a accordé le télétravail, et maintenant, il faut aussi qu'on prenne un temps pour voir si tout se passe bien et si ça, et s'il n'y a pas des choses à faire évoluer. Donc, généralement, ce qu'on conseille, c'est quand on le fait pour la première fois le télétravail, de faire un petit bilan au bout de 3 mois pour éventuellement recalibrer. Et puis sinon, c'est une fois par an, donc un bilan annuel de télétravail. Alors, généralement, c'est un petit moment quantitatif. Mais l'idée aussi, en équipe et entre le manager et le télétravailleur, c'est d'avoir un moment qualitatif, c'est-à-dire de vraiment aller un peu plus loin dans les attentes, dans les besoins et dans les évolutions potentielles d'organisation. Voilà un petit peu pour les différentes étapes. Donc là, j'ai fait vraiment global et jusqu'au bout pour mettre en place le télétravail.
Merci Clémence pour toutes ces informations. Mais je voudrais quand même revenir sur la décision du télétravail. Il y a la loi,
oui.
Ça c'est une chose.
Oui.
Mais il y a un amont quand même, une acculturation au niveau stratégique. C'est-à-dire que quand je suis l'employeur, la loi me dit qu'on peut faire du télétravail. Est-ce que j'ai un pouvoir de dire ça ne convient pas à mon organisation?
Alors, oui, mais il faut pouvoir le justifier. Le manager, il a, ouais, tout, a... pardon.
Quand je parle du manager, je parle pas du chef de service ou ça, je parle du directeur général des DGS et des présidents quand il y en a. Est-ce que ça veut dire qu'avant de déployer la mise en œuvre du télétravail dans la RH, même si la loi l'autorise, on doit passer par une acculturation des stratèges?
Alors, c'est-à-dire que passer par une acculturation des top managers, ça peut être important pour leur montrer à voir que le télétravail, finalement, c'est une modalité d'organisation du travail. Ça ne va pas remettre en péril l'organisation de l'ensemble de la structure. Ce que là, en fait, la loi dit on peut télétravailler, mais c'est pas un droit à l'agent aujourd'hui. C'est-à-dire que un agent ne peut pas arriver en disant j'ai le droit au télétravail, vous me le donnez. Et donc la décision, elle est individuelle. Et à partir du moment où elle est individuelle, c'est-à-dire que c'est entre un agent avec son manager dans un fonctionnement d'équipe sur un service donné, on ne peut pas généraliser au niveau d'une grande structure, d'une collectivité, par exemple globale,